Bienvenue dans le Paris Central Show. On est avec Zedrias, on est avec Basto, on est avec Rekoba. Et aujourd'hui, on va parler du mercato parce que Nasser, il a dit qu'on va recruter personne. Donc là, du coup, déjà, ça pose problème. On va parler du bilan Coupe du Monde, de l'Allemagne et de Kimmich et de Nuno Mendes. Et c'est parti, bienvenue dans le Paris Central Show. Basto, qu'est-ce que tu penses de la déclaration de Nasser? Comme quoi, on va pas faire de recrues cet hiver.
Avant cette déclaration, de toute façon, on avait des articles dans la presse qui disaient que si le PSG recrutait, ce serait qu'en prêt, parce que le PSG n'a pas la manne financière par rapport au fair play financier pour pouvoir recruter cet hiver. Donc, si c'est pour prendre un panic buy en décès, en prêt, qui n'apporterait pas grand-chose, je vois pas non plus l'intérêt. Et même si on avait, disons, une petite enveloppe pour cet hiver, pourquoi se précipiter? On continue avec ce qu'on a actuellement. On regardera cet été les joueurs en fin de contrat comme on a pu le faire, les bonnes opportunités. On regardera la manne financière. Ça dépendra aussi peut-être d'une revente départ minoritaire. On en parle, c'est peut-être dû aussi à ça. On sait que le Qatar perd beaucoup d'argent chaque année. On sait que le fair play financier avec notamment la masse salariale, c'est compliqué. Donc, il faut mieux faire les choses intelligemment plutôt que se précipiter. Donc, moi, je comprends Nasser et pour moi, ça sert à rien de recruter cet hiver si on n'a pas l'argent propre.
Nix, t'as pas ton micro. Je vais enchaîner du coup. En fait, Basto a dit l'essentiel. On peut rajouter un truc, c'est qu'on était, on a été en tension un moment. On a été en tension un moment pour quand on était à 3 sur la base arrière. Dès qu'on a eu deux blessés, on était ou de non disponibles, on était vraiment en difficulté. Mais on a répondu en passant en 4-3-3. Ou pas exactement en 4-3, mais avec une défense à 4, et on a résolu ce problème. Comme le dit Basto, si c'est pour prendre un complément qui sera un complément comme on en prend d'habitude les hivers, juste pour essayer de faire le nombre quelque part, je pense qu'au milieu, on a plus ou moins le nombre, derrière, on a plus ou moins le nombre, on a ce qu'il faut pour continuer, c'est juste qu'il va falloir éviter de trop travailler sur une défense à 3, parce que là, par contre, on a clairement des gros manques si on le fait. Mais sinon, pour moi, Basto avait tout dit, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord moi aussi. Je pense que là, avec ce système à 4 derrière, ça peut tenir la route. Il y a des joueurs qui reviennent aussi à leur niveau. Je pense à Marquinhos. Donc ouais, si c'est pour recruter un joueur, comme disait Basto, un panic buy, franchement, ça sert un petit peu à rien. On sait que niveau finance, c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que Nasser veut peut-être vendre 10 à 15% de parts du club pour avoir des liquidités directement. Donc ouais, recruter pour recruter, je pense que ça sert à rien. Là, actuellement, dans ce système-là, je pense qu'on a ce qu'il faut. Après, oui, il manque certains profils, mais tu les auras pas forcément disponibles sur ce mercato d'hiver. Donc prendre des gars pour devoir les revendre l'été prochain ou quoi, pour moi, ça sert à rien. On peut continuer comme ça. Si tout le monde se met au diapason, qu'on travaille bien l'animation, etc., je pense qu'on peut faire quand même une très bonne saison et aller chercher quelque chose au bout. Donc, je peux comprendre moi aussi la déclaration de Nasser.
Et du coup, la manière avec laquelle tu l'as présenté m'a envie de te donner une question. C'est pour toi, rapidement, hein, parce qu'après, on a d'autres sujets à aborder. Pour toi, c'est quoi les profils qui manquent à l'heure actuelle?
Pour moi, il manque un vrai numéro 9. Je pense qu'on le voit encore en équipe de France, Mbappé sur le côté gauche, même s'il a tendance à revenir beaucoup dans l'axe. Il a besoin d'avoir un mec pour fixer, qui fixe un petit peu la défense, qui pèse sur la défense et qui lui libère des espaces. Donc, ouais, pour moi, ce serait un numéro 9. Après, un gros défenseur central, oui. Mais si tu as Marquinhos au top niveau, si tu as Danilo au top niveau, si Kimpembe revient au top niveau, si tu as la plénitude de tes défenseurs, pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire, même si personnellement, je ne crache pas sur un Gvardiol. Mais ça, c'est pour cet été, pas pour cet hiver. Mais après, pouvoir prendre un pivot cet hiver, ça, je ne dis pas non, parce que je pense que ça pourrait faire du bien. On voit que Neymar, il reste encore fragile. On ne sait pas trop comment il va revenir, même mentalement, après cette Coupe du Monde. Donc, si tu peux prendre un attaquant en plus, pourquoi pas. Mais ce serait vraiment un profil différent qui ferait du bien aux joueurs qu'on a actuellement, notamment Mbappé. Sinon, après, en défense, personnellement, je suis pas fan. Et au milieu, je pense qu'on a ce qu'il faut, mine de rien.
Est-ce que tu valides les pistes de Réco? T'en vois d'autres, Basso?
Ouais, mais alors, celle que je vois, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas ou qui est très, très rare. Ce serait Déjà, je remettrais Moukeleko en centrale et je recruterais un latéral plus offensif qui peut jouer à la fois à droite et à la fois à gauche. Donc, à droite pour supplier Hakimi et à gauche, parce qu'on va en parler tout à l'heure, les difficultés physique récente de Nuno et parce que Bernat n'apporte pas toutes les garanties depuis son retour de blessure. Donc si on trouvait cette perle rare, oui, mais bon, c'est très compliqué.
Et du coup, je vais replacer la main à Nyx parce qu'il est revenu et je ne connais pas la suite du plan.
Bah écoutez, là, on a parlé de Nasser. On a dit, est-ce que c'était suffisant avec la composition actuelle de l'effectif pour pouvoir continuer en Europe? Je pense que vous avez déjà bien répondu à la question. Après, ce que je voulais aborder avec vous, ce serait le bilan de la première phase de la Coupe du Monde. Selon vous, quel Parisien a tiré son épingle du jeu et quel Parisien n'a pas été bon, à l'exception de Nuno Mendes qu'on va aborder après? Qu'est-ce que vous avez pensé de tous nos joueurs? Vas-y,
qui veut commencer? Moi, j'ai bien aimé comment ça, bah, Mbappé déjà, parce qu'il répond présent. Il marque 3 buts, il est dans les meilleurs buteurs de la compétition. Dans le jeu, ça reste encore compliqué. De toute façon, on l'a vu, même avec le PSG. Voilà, il y a encore beaucoup de déchets, etc. Mais au final, il te plante les buts quand même. Il est décisif, 2 fois homme du match. Donc forcément, on peut être que satisfait. Et je pense que voilà, dans les phases finales, c'est pas un joueur qui se cache. Donc ça peut encore donner de grandes choses à voir par la suite. Triste forcément pour Nuno Mendes. Après, Sarabia Soler, j'ai pas trop suivi l'Espagne personnellement. Mais moi, l'Espagne, c'est pas une équipe qui me donne envie. Voir une équipe qui joue comme ça, qui fait tourner le ballon pendant 90 minutes sans rien en faire, ça m'intéresse pas. Donc après, je ne sais pas s'ils ont fait de grosses perfs ou pas. Qui sait qu'il y a d'autres, qui sait qu'on a d'autres. Navas, mine de rien, qui a, bon, il a pris beaucoup de buts, mais mais il a fait quand même de tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas été trop dégueu. Maintenant, voilà, je pense que Navas, à mon avis, il va partir. Je pense même dès cet hiver. On verra ce qui va se passer, mais je pense qu'il a besoin de jouer, qu'il a envie de jouer. Et je ne pense pas qu'il reste encore une partie de saison comme ça sur le banc sans jouer une seule minute, parce que à la limite, s'il joue un petit peu en championnat et tout de temps en temps, d'accord, mais là il joue pas du tout, donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Je pense qu'il partira. Sinon, qui sait qu'on a d'autres comme Parisien? Vitinha qui vient de jouer, ouais, Hakimi. Vitinha qui vient de jouer première titularisation avec le Portugal, là, qui a fait un gros match, qui a été un des seuls bons Portugais sur la pelouse. Tu vois qu'il a du ballon, les gestes qu'il fait, ce qu'il apporte. Je pense que ça lui a fait du bien aussi de ne pas jouer. Il a pu récupérer un petit peu physiquement. On sentait qu'il était quand même très, très emprunté. Beaucoup parlaient du système. Moi, pour moi, c'était juste un problème physique. Il s'était juste cramé à force d'enchaîner les matchs dans ce double pivot avec Verratti. Là, on voit qu'avec un peu de repos, bah, il joue et il joue super bien. Donc, je pense qu'il pourrait même rentrer en jeu et faire du bien au Portugal dans les prochains matchs. Voilà, et Hakimi qui est solide, toujours aussi solide défensivement, je trouve, et qui apporte bien offensivement aussi, moins qu'à l'accoutumée et de ce qu'on attend de lui. Mais petit à petit, je trouve qu'il revient dans, on va dire, dans le bon rythme et dans les bonnes choses.
Bah pour moi, t'as dit l'essentiel. Je rajouterais Soler qui fait une très bonne rentrée contre le Costa Rica, qui amène, bah justement, toi, t'étais en train de déplorer, c'était une équipe d'Espagne qui joue un peu trop à la passadice au milieu. Il amène un petit peu de d'intentionnalité vers l'avant et de tentatives de frappe et de tentatives de passe où il essaye de trouver des espaces très rapidement. Et il a fait du bien quand il est rentré. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il l'a pas fait plus rentrer. Sinon, t'as dit l'essentiel pour Hakimi. Hakimi a mieux commencé. Le dernier match était beaucoup plus difficile, même s'il sort une grosse passe décisive. Ce qui est surprenant le concernant, c'est qu'offensivement, mis à part cette passe décisive du dernier match, d'ailleurs il est un peu moins bon. Bah, il est pas très très bon sur cette Coupe du Monde. Par contre, il est excellent défensivement. Il arrive vraiment à bien tenir son couloir. Et shout out à tous ceux qui disaient, moi compris, qu'il fallait absolument être à 5 avec ce joueur, parce que force est de constater que pour l'instant, sur ce début de saison, et puis même si on prend en compte la saison dernière, il a tendance à être meilleur à 4 que à 5. Donc voilà. Et sinon, pour les autres joueurs, je pense, enfin, pour moi, t'as tout dit et je vais passer la main à Basso.
Ouais, je parlais peut-être. Alors, Navas, il a eu un premier match quand même très compliqué, où il prend cette frappe cadrée, 7 buts, et il est fautif sur 2 des 7 buts qu'il a eu. Après, il n'avait pas joué depuis 6 mois, et effectivement, il se rattrape bien les deux matchs suivants contre l'Allemagne et le Japon. Après, on a les joueurs qu'on voit peu, hein, Danilo qui malheureusement s'est blessé après un premier match, on va dire irrégulier, où il fait une bonne performance, mais il est peut-être un peu fautif sur un des buts. On a Vitinha qui, même s'il fait un bon match hier, on a l'impression que c'est la dernière roue du carrosse pour le coach, hein, dans les autres matchs quand le Portugal n'était pas encore qualifié. C'est tous les milieux rentrent sauf Vitinha. Donc, est-ce qu'on le verra à partir des huitièmes? J'en suis pas convaincu. Neymar, bah, est-ce qu'on le verra en huitième? En quart? En demi? Il fait un bon premier match, mais il se blesse malheureusement. Est-ce que c'était attendu? Oui, je pense qu'on avait tous cette crainte. Est-ce qu'il va rejouer? Dans quel état il va revenir s'il joue? Dans quel état il va revenir? Puisqu'on parle de jouer sous infiltration déjà pour Neymar, donc ça c'est un peu inquiétant. Dans ceux qui ont complètement disparu, il y a Sarabia qui a 0 minute de temps de jeu. Hein, c'est sur la continuité de sa saison au PSG. Et puis sur, allez peut-être un petit mot sur, vu qu'on a fait un gros plan sur Mbappé et Hakimi, sur Messi, qui fait une Coupe du Monde un peu comme son équipe. Hein. Le premier match, il marque ce penalty, mais derrière, il est complètement annihilé. Il fait pas, même s'il jouait, on a l'impression qu'il était blessé sur ce match. Hein. Vraiment, il avait la jambe lourde. Ensuite, il y a ce deuxième match contre le Mexique où on sent qu'il a peur aussi, mais à l'arrivée, c'est lui qui débloque le match d'un magnifique but, puis il fait la passe D. Donc, dans le match qu'il fallait, Messi a répondu présent. Et troisième match, bon, il rate ce penalty, il ne fait pas un mauvais match dans le jeu, il ne fait pas non plus un match incroyable. Donc, c'est un peu comme l'Argentine, il est à contre-courant. Voilà, il est assez irrégulier, mais en même temps toujours très dangereux, et on sent que ça peut être le facteur clé de cette équipe pour la suite.
Comme l'a dit Basso, c'est vrai qu'on connaît le futur et donc à ce titre-là avec Neymar et donc on sait qu'il va revenir en demi-finale pour se reblesser. On donne la main à Nyx.
Il y a des petites questions dans le chat que je voulais aborder avec vous. Il y a directeur Walou Bureau 212 qui nous dit que Amrabat va vite être vendu par la Fiorentina, pourquoi pas au PSG.
Il est exceptionnel, Amrabat. Il est exceptionnel. Mais après, est-ce qu'il a pour autant le niveau gratin européen? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, moi, j'ai adoré joueur. Mais en fait, tu prends Amrabat et tu lui rajoutes plus d'aisance technique. Et je pense qu'il est un des joueurs les plus recherchés, les plus recherchés en Europe. Il lui manque ce petit truc technique qui fera qu'il s'interfacera plus facilement avec une équipe qui est un jeu rapide. Il y a une comparaison qui est souvent lieu avec Amrabat et je trouve qu'elle est relativement juste, c'est Kanté. Sauf que moi, je trouve que Amrabat connaît mieux, j'ai l'impression qu'Amrabat connaît mieux sa position et d'une certaine manière, sur le chapitre défensif, je le trouve encore plus impressionnant à titre perso. Maintenant, avec ballon, il n'a pas tout à fait le niveau de Kanté et il lui manquerait ça, je pense, pour aller dans un grand club. Très,
Et
très grand
personne
club.
sur Amrabat? On va passer à autre chose.
Non, c'est
Bah, c'est un
bon. Je
joueur que
pense.
je connais pas beaucoup, mais en tout cas, oui, il est intéressant sur cette Coupe du Monde. Après, je suis d'accord avec Grias, quid de son niveau dans un grand club, parce que être fort en sélection, voilà, briller sans, même s'il y a de la pression, mais il n'y a pas le niveau technique qui est demandé dans un grand club. C'est un niveau au-dessus, et on peut le voir par exemple avec Renato Sanchez. Quand la marche est plus haute, bah après oui, il y a le facteur mental, mais il y a aussi le facteur technique, physique. Et il y a des fois, il y a des joueurs qui ne tiennent pas ce niveau-là d'exigence mentale et technique. Et pour moi, Amrabat, si il a fait ces clubs-là et cette carrière-là pour l'instant, c'est peut-être pas pour rien.
Non, pas grand
Ok.
chose à ajouter hein, de ce que j'ai vu d'Amrabat hors de ce mondial où il fait vraiment un très bon mondial. C'était plutôt irrégulier, donc il ne m'avait pas vraiment tapé dans l'œil. Je pense que voilà, Fiorentina, ça reste quand même un très bon club italien. C'est un bon niveau. C'est pas le Real, etc. Mais voilà, ça doit être son niveau a priori.
Ok. Je voulais aborder aussi avec vous le cas Kimmich qui a dit qu'il est au fond du trou. Est-ce que vous pensez que l'élimination de l'Allemagne va jouer un rôle dans la mentalité du Bayern au mois de février? Basto.
Tu voulais pas faire un point sur Nuno Mendes à bord?
Après?
Je l'ai mis dans les sujets, mais après c'était le sujet qui venait après, si vous préférez l'aborder tout de suite,
Ah
on peut
non,
aussi.
pas du tout. J'avais cru que tu avais oublié parce qu'on parlait d'abord des joueurs du PSG et j'ai vu un commentaire passer qui en parlait. C'est pour ça que
Bah
je
vas-y,
crois que
si
c'est
tu l'as
deux
déjà
mois,
lancé,
Nuno
vas-y,
Mendes. Hein.
continue.
Deux
Continue.
mois.
Out 2 mois, non?
Ouais, c'est
Ouais.
2 mois, c'est ça.
Bah, en tout cas, oui, c'est le petit drame pour moi. C'est le petit drame de cette Coupe du Monde. Quand je l'ai vu, bah, j'étais dans un bar avec Basto. Il n'était pas là à ce moment-là. J'étais un peu en panique. C'est une petite déchirure. Déchirure de ne plus l'avoir sur le mondial. Et puis au-delà de ça, il y a une crainte qui commence à apparaître. On parle d'un joueur qui a été blessé, pas tout à fait un an, mais pas loin, à 17 ans ou à 18 ans, je crois, quand il était au Portugal. Il a eu une petite blessure à Paris, il en a une nouvelle là. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que, alors que c'est un joueur c'est un délicieux joueur, on a tous envie de le voir sur le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, est-ce que les blessures vont s'enchaîner? Est-ce qu'on ne serait pas inspiré de lui faire une batterie test très sérieux sur son positionnement, la manière avec laquelle il tient son bassin, la manière avec laquelle il utilise ses jambes, etc., pour voir s'il n'y a pas une manière de se tenir qui fait qu'il a tendance à se blesser beaucoup. En parlant de ça, je fais référence à un joueur qui, pour lequel de telles analyses auraient été très bénéfiques, et c'est Javier Pastore, si on les avait fait à temps. Et je pense que pour Nuno Mendes, il faudrait se poser la question de les faire, parce que c'est un délice de joueur, et ce serait un crève-cœur de le voir blessé 3 mois par an. Ça m'ennuierait vraiment. Il y a des joueurs avec lesquels je m'accommode plus de cela, mais pour Nuno Mendes, ce serait vraiment une épine dans le pied. Et concernant le mondial, pour moi, ça a été un petit drame. Ça m'a fait mal de le voir sur le sol, de ne pas pouvoir se relever, et quand il se relève, d'avoir les larmes, ça m'a chagriné, perso.
Ouais, moi je suis d'accord aussi, ça m'a fait un peu de mal. Après, il est jeune, il en jouera d'autres, normalement, donc ça va. Mais c'est vrai que ça fait du mal. En plus de ça, au PSG, on voit bien qu'avec Juan Bernat, c'est compliqué à gauche. Donc là, 2 mois, mine de rien, ça va faire tout le mois de janvier, il va revenir en février. Espérons qu'il revienne bien et qu'il arrive à être bien physiquement rapidement, parce que le Bayern va arriver vite. Et on a un gros, gros enchaînement de matchs aussi, avec des gros matchs juste avant le Bayern. Donc mine de rien, Bernat, déjà qu'il est mauvais, il ne va pas pouvoir tout faire non plus physiquement. Donc ça peut être inquiétant pour Paris. Si ça avait été un autre joueur, avec des joueurs qu'on a sur le banc, c'est pas trop trop grave. Mais là, pour le coup, je pense que c'est quand même bien bien préjudiciable. Du coup, ça rejoint un petit peu justement ce que disait Basto, trouver un latéral peut-être polyvalent qui puisse jouer sur les deux côtés, ça pourrait être intéressant. Mais après, la blessure, est-ce que c'est musculaire ou pas?
Je crois pas. Je crois que c'est, ouais. c'est pas
ligamentaire. Si c'est musculaire, bon, c'est pas trop trop grave, dans le sens où derrière, ça peut pas non plus, ça va pas forcément être préjudiciable, on va dire, pour la suite de sa carrière, là où des grosses blessures peuvent vraiment impacter et faire que le joueur va devenir de plus en plus fragile. Mais ouais, faut voir, ça, il commence à avoir quelques petits pépins. Mais bon, après, perso, je m'inquiète pas trop. Je pense que c'est aussi lié à son jeu. Il y a énormément de débauche d'énergie physique, d'intensité dans ce qu'il fait. Donc, mais après, de là à s'inquiéter, non, je m'inquiète pas personnellement.
Très rapidement. Phoenix va nous dire la blessure.
Très rapidement, Basto. Nix, il y a un tonton qui pose des messages dans le chat. Son dernier message, je pense que ça vaut ban. Non. Non, tonton.
Il n'est pas clair, ce mec.
C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait là?
Franchement, il n'est pas loin du ban, je crois.
Vous avez la réponse sur Nuno, si c'est musculaire ou pas? Il me semble c'était comme la première blessure. Il me semble que c'était la
ce
même.
Ce que j'avais vu sur les réseaux, c'était très similaire à ce qu'il avait eu la dernière fois. Donc, je pense que c'est musculaire. Mais en même temps, quand tu dis deux mois d'absence...
C'est vrai que... Ouais.
En fait, le problème de Nuno, c'est qu'on sait qu'il est fragile. Après, depuis qu'il est au PSG, il n'avait pas été blessé les 15 premiers mois. Il était plutôt bien géré dans ce début de championnat par le staff, parce qu'il jouait 60 minutes. Il était vite sorti à la 60e. Ensuite, il était reposé un match sur 3. Donc, il n'était pas surutilisé. Il a eu cette blessure, et derrière, le problème, c'est que c'est la suite de cette blessure. Il a dû vite revenir pour pouvoir jouer la Coupe du Monde, donc enchaîner du temps de jeu. Il est arrivé à la Coupe du Monde avec une contracture, il ne s'est pas entraîné, il a raté le premier match. Il n'avait qu'une séance d'entraînement, et le coach le remet tout de suite, alors qu'il a une contracture dans un match, et il se répète. Donc, ce n'est pas 3 blessures pour moi, c'est la même qui n'a pas été gérée, ou parce qu'on est dans l'urgence de la Coupe du Monde. Donc, quand il va revenir au PSG, il va falloir le prendre tranquillement, ne pas précipiter. S'il rate le match aller contre Munich, soit il ratera le match aller, qu'il soit là au match retour. Voilà, il va falloir faire attention avec lui. Comme le disait Rekoba, c'est quelqu'un de très intense, même ses sprints arrêtés. Tu vois, c'est des blessures musculaires de sprinter un peu qu'il a. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller de près, et surtout gérer son temps de jeu. Je suis pas inquiet, j'ai pas une peur qu'il finisse comme Pastore, je ne pense pas. Maintenant, le foot ne m'aime tellement pas en ce moment que c'est tout à fait possible.
Bon, les gars, merci du support que vous donnez au Paris Central Show depuis le début. Là, on a essayé d'améliorer un peu la qualité du show. On a acheté un peu de matos et tout. Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous voulez intervenir en live dans l'émission ou sur le Discord, que j'ai mis le lien dans le commentaire YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets, si vous voulez parler de certaines choses, n'hésitez pas à appeler le numéro. Ensuite, on va enchaîner sur le Bayern. On disait tout à l'heure que l'Allemagne, qui a beaucoup de joueurs qui jouent au Bayern, Kimmich notamment, qui disait qu'il était au fond du trou. Est-ce que vous pensez que ce problème va affecter le Bayern ou est-ce qu'ils vont revenir avec un état d'esprit revanchard?
Moi, je
Basto,
veux bien
vas-y.
commencer.
Ah bah vas-y, Rako.
Si ça vous dérange pas.
Non.
Vas-y. Ouais, bah, j'en parlais en fait. Je le disais. Moi, personnellement, du coup, c'était le contraire. Je voyais l'Allemagne aller quand même loin et je disais que justement, par rapport à ce match contre le PSG, ça pouvait jouer parce que les mecs, s'ils sont champions du monde, derrière, il y a une déconnexion un petit peu. T'as envie de profiter. T'es plus. En fait, il y a eu une décharge émotionnelle tellement forte que derrière. Même si tu as un grand événement, même si tu es professionnel et que tu essayes d'être là et de répondre présent, bah en fait, tu es là, mais sans être là. Et ça pouvait jouer. Et là, on a le contraire, mais qui pour moi va influer sur ce match, parce qu'on le voit avec la déclaration de Kimmich, cette débâcle de l'Allemagne va laisser des traces, même s'il y a des joueurs qui vont s'en remettre, je pense notamment à Thomas Müller, qui lui, voilà, mentalement sera là et pourra jouer, je pense, un bon match. Mais il y a des joueurs, jeunes ou moins jeunes, qui vont plonger, qui vont avoir du mal à s'en remettre. Et bien sûr que ça va influer sur le match contre le PSG. Tu as des joueurs qui ne seront pas au rendez-vous, tu as des joueurs qui ne vont pas s'en remettre. Et forcément, ça va jouer en notre faveur. Donc voilà, jeunes ou moins jeunes, il y a des joueurs qui ne s'en remettront pas.
Moi, j'ai l'impression que ça prépare les excuses. Juste très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit OK, hein, Rabiot, on va pas s'enflammer. Rabiot, il y a un passif avec Paris. Et de toute façon, même s'il redevenait cohérent, le faire revenir à Paris, ça serait assurer l'incohérence qui se poursuit.
Je
Ouais,
suis
bah, en fait, le
fatigué.
truc, c'est que Kimmich est comme
Je
ça, mais
suis
Kimmich, c'est un grand
fatigué.
professionnel.
Et je suis fatigué. Je suis
Nix?
fatigué. Tu comprends pourquoi?
C'est Nix, il se fait plaisir.
Tu comprends pourquoi il est sorti?
Non, j'ai pas
Il a pas la
compris.
référence du je suis fatigué, je crois.
Bah, c'était Tourelle parce que tu es complètement sorti du sujet qu'on t'a donné.
Voilà.
Donc je disais
Ah,
je suis
d'accord,
fatigué. Et je suis fatigué. Vas-y, Darius, je t'en
Mais
désolé.
oui, mais en fait, je pense qu'un Kimmich, il est professionnel, il reviendra au niveau. Après, on sait qu'au Bayern, en fait, le truc, c'est que l'équipe d'Allemagne, elle a fait cette prestation parce qu'elle patine. Elle patine dans son jeu, elle patine dans ses intentions. C'est-à-dire qu'il y a presque tous les éléments qu'il y avait avant, mais ça marche plus. Et ils sont dans une situation où ils sont obligés de tout changer parce que s'ils continuent cette route, rien ne changera. C'est pas les individus. Il y a quelque chose qui patine. Et d'une certaine manière, ça patine de la même manière au Real Madrid. C'est-à-dire que c'est pas l'état de oh, je me sens pas bien avec moi-même. Enfin, on parle de Kimmich, quoi. On parle pas d'un Neymar. Là, ça me fait penser au dernier Les Sopranos sur les supporters brésiliens qui est magique. Et on parle pas d'un Neymar ou etc. etc. On parle de joueurs qui sont presque programmés pour gagner, quoi. Et Kimmich, c'est vraiment le cas. Là, oui, il a du mal à gérer le truc. Mais t'inquiète pas que pour un PSG Bayern, à mon avis, il sera complètement au niveau. Et par contre, la question, c'est est-ce que ce Bayern patine de la même manière que l'équipe d'Allemagne? Et moi, je crois que oui. C'est-à-dire que c'est une équipe dangereuse, mais qui n'est plus aussi létale qu'avant, qui n'est plus aussi précise dans son pressing qu'avant, qui assume beaucoup moins les déséquilibres qu'elle crée, et qui est peut-être prenable. Alors après, il ne faut pas s'enflammer, ça reste le Bayern, mais qui est peut-être prenable pour le coup.
Je suis plus mitigé. Alors, c'est vrai que souvent, à chaud, quand tu es éliminé après un tel scénario, etc., Kimi, je vais dire, je suis au fond du trou, je ne sais pas si je veux m'en relever. Après, bah, le temps qu'il y ait le match qui arrive, il y a quand même 2 mois, même plus de 2 mois. Donc, il aura le temps de se remettre. Et je pense que les joueurs vont se reconcentrer maintenant sur cet objectif, les Allemands éliminés, qui est la Ligue des Champions, pour pas finir l'année complètement en mode loupage total. Ils ont du temps pour se préparer, du coup. Ils auront énormément de temps. Déjà, ils en avaient un parce qu'ils jouent pas au Nouvel An ou au 25 décembre comme nous. Donc, ils auront vraiment là, ils sont de retour. Ils ont 2 bons mois pour se préparer physiquement. Donc, ils ont une vraie coupure comme une nouvelle saison pour se remettre en forme. Donc, physiquement, ils risquent d'avoir un avantage sur nous assez certain. Et un autre point pour eux qui peut être fort, c'est qu'ils avaient une défense qui tournait beaucoup. Ils n'arrivaient pas forcément à trouver la défense type. Et là, cette Coupe du Monde, ça leur donne un peu les cartes. On voit Pavard qui est au fond du trou et Mazraoui qui fait plutôt des bons matchs. Donc à droite, le duel Pavard-Mazraoui, tu as peut-être Mazraoui qui se dégage. En défense, tu as Upamecano qui confirme sa très bonne forme de Munich en faisant pour le moment une très bonne Coupe du Monde. Bon, De Ligt joue pas trop avec la Hollande, il est dans un poste qui est mal utilisé, mais à Munich, il reste indispensable. Et à gauche, eh ben, Lucas, il s'est fait les croisés, donc de toute façon, ce sera Davis. Donc, on a une défense qui semble se dessiner, Davis ou Upamecano, De Ligt, Mazraoui. Et c'est aussi un point fort d'avoir enfin une défense type qui se dessine. Donc, voilà, mentalement, ils sont peut-être à l'heure actuelle pas au top, mais je pense que 2 mois, ça suffit largement. Une vraie préparation physique, ça les remet mentalement devant. Donc, je pense que c'est plutôt une mauvaise nouvelle, moi, pour le PSG, le fait que l'Allemagne soit éliminée si tôt.
Ok, petit débat assez rapide qui est un peu ridicule quand même, mais je voulais l'aborder. Vous vous rappelez de Mané et Mohamed Salah après la finale de la CAN, et on a senti quand même qu'il y a eu un petit froid après tout ça. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il est fort possible que nos joueurs vont se rencontrer au cours de la Coupe du Monde. Et est-ce que vous avez peur que ça risque de créer des problèmes? Notamment, je crois qu'il y a un Brésil-Argentine, Messi et Neymar, je crois qu'on est à l'abri vu qu'ils sont potes dans la vraie vie. Mais après, ensuite, France-Brésil, peut-être, ou France-Argentine, s'ils arrivent jusque-là, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Non, pour moi, non. Non, simplement non. Pour moi, c'est des professionnels. Voilà, il y a de l'enjeu. Il y en a un qui va gagner, l'autre qui va être éliminé. C'est comme ça. Je ne pense pas que l'un en voudra à l'autre. Oui, c'est vrai qu'on a vu cet exemple avec Salah Mané, mais bon, c'est. Je pense qu'il n'avait pas un problème contre Mané. C'est simplement qu'il avait les boules de se faire sortir 2 fois comme ça au péno, la qualif et la finale de la CAN. Donc, il a dû digérer, mais je ne pense pas qu'il avait un problème vraiment. Face à Mané, c'était plus lui qui était en froid un petit peu, je pense, avec tout le monde, tu vois. Ouais, je pense pas qu'il y ait de soucis, puis surtout que c'est des amis, la plupart. Après, avec Mbappé, j'ai du mal à avoir quelque chose, même si on va pas se mentir, si jamais Mbappé sort l'Argentine ou le Brésil, on va avoir droit à nos journaleux habituels qui vont nous sortir, voilà, c'est fini entre Neymar et Mbappé ou entre Messi et Mbappé. Bref, on connaît, mais personnellement, non, je pense pas.
En fait,
Moi,
avant même, vas-y, j'y vais, Seb, ou tu veux y aller?
Moi, je vais faire une intervention très rapide parce que j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Mais moi, je pense que Neymar, il va dire si Mbappé il sort Neymar, je pense que Neymar, il va dire à Mbappé, t'as essayé de me virer au début de la saison, t'as réussi à me virer maintenant, je te déteste. Voilà, je te laisse partir, basto.
Non, je disais, avant la CAN, on sait que Mané était déjà en discussion ou un peu en froid avec le club de Liverpool parce qu'il voulait avoir le même statut que Salah. Elle estimait que Salah sortait moins que lui. Le salaire était moins important, etc. Donc ça ne fait que la CAN, c'est juste qu'ils se sont rencontrés en finale et on parle de ça, mais en fait les problèmes sont antérieurs. Et puis on peut prendre un contre-exemple qui est la finale de la dernière Copa Messi-Neymar. Il y a un gagnant, un perdant et les deux sont là à s'enlacer main dans la main à la fin du match. Donc je ne crois pas que ça posera de problème pour le PSG.
Ok, c'était, je sais pas c'est quoi son prénom, il est un peu difficile à prononcer, mais c'est plus déjà dans la rivalité avec Neymar et Mbappé qui existe déjà, entre guillemets, dans la course au Ballon d'Or. Est-ce que par exemple, si Kylian Mbappé gagne la finale, il revient en tant que double champion du monde, est-ce que la pilule, elle va pas avoir du mal à passer?
Mais je pense que cette rivalité, elle existe intrinsèquement. Et je pense que la Coupe du Monde, si elle aurait un impact, comme l'ont très bien dit Rico et Basto, je pense que ça sera limité l'impact qu'aura la Coupe du Monde. C'est-à-dire que ponctuellement, il y aura ce ressenti, mais les mecs vont se retrouver après au camp des loges et on retrouvera la normalité qui était celle d'avant. Par contre, sur la rivalité Mbappé-Neymar, même si j'ai l'impression que Neymar s'est un peu mis en retrait sur ce sujet, sur le Ballon d'Or, peut-être que je me trompe, mais c'est un sentiment. Mais elle est intrinsèque et elle est inhérente au fait d'avoir un ex-Ballon d'Or qui met le curseur ici dans ton effectif et deux très gros potentiels Ballon d'Or en même temps dans l'effectif. Ça, c'est le genre de problème que tu as quand tu dessines ton effectif de la manière avec laquelle on l'a dessiné. Mais je ne suis pas sûr que la Coupe du Monde ait un réel impact dessus. Et pareil par rapport à OK. Je pense que Messi, par rapport à ce que dit OK, je pense que Messi, il en a vu d'autres. Il serait extrêmement déçu si cette dernière Coupe du Monde, il en voudrait à l'équipe de France, mais il n'en voudrait pas à la France où ça se passe très bien et il n'en voudrait pas à Kylian Mbappé. Il sera très content si jamais il gagne contre le Bayern de Munich. Tout sera revenu à zéro. Il n'y aura pas de souci, je pense.
Ok, match m'a parfaitement lancé pour la prochaine transition. Je voudrais parler de quelque chose que j'ai vu dans la presse cette semaine. Ce serait une prolongation de 2 ans de Léo Messi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, personnellement, je suis pas forcément pour. Certaines personnes me disent ouais, c'est le meilleur joueur du monde, faut le garder tout le temps, on peut le garder, même si on le garde jusqu'à 45 ans, blablabla.
Mais il y a
Basto, tu
un...
penses quoi de cette proposition de prolongation de 2 ans?
Je suis un grand défenseur de Messi au PSG déjà l'année dernière, et pour moi, c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Maintenant, non, non, au bout d'un moment, il faut construire. Il faut essayer de construire un vrai projet sportif. Là, c'est quoi? C'est on prolonge Messi 2 ans, on prolonge aussi Ramos, comme on en parle, et on s'en sort jamais. On s'en sort jamais. Donc là, on a des problèmes de masse financière, de fair play financier, on connaît le salaire de Messi. Pouvoir se séparer, c'est un peu dur de pas séparer, mais pouvoir libérer une masse salariale pour aller acheter des joueurs à des postes manquants ciblés, je pense qu'il faut le faire. Ce serait pour moi une erreur. Il a 36 ans, mais si, voilà, on sait même, on ne sait pas. Ça se trouve, il prolonge et puis c'est les années de trop. Donc c'est trop risqué. On a déjà Neymar et Mbappé. On sait les problèmes que ça fait d'en avoir trois. On peut se libérer d'une partie de ce problème et ensuite recruter autour. Pourquoi hésiter?
Moi, c'est simple. Il y a un moment, Basto a, pour moi, a mis le doigt dessus. Il s'agit de construire un projet sportif et d'avancer en adéquation avec ce projet sportif. Et il y a un moment, il faut savoir renouveler ton effectif, savoir amener du sang frais, savoir amener des nouvelles idées, savoir amener des nouveaux leaders, ou une manière différente d'avoir des leaders, pas forcément que des leaders qui sont des leaders stars devant, qui te font vendre des maillots. Et il y a, ce truc chez les Qataris, et c'est pas que les stars, pour le, enfin, c'est les stars, c'est tous des stars, mais c'est pas que les gros stars devant, machin, mais le chouette. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec Marco Verratti, ce qui se passe avec Marquinhos, d'une certaine manière, c'est perspective en fait presque de donner des CDI à des joueurs, ça nous pose des problèmes, ça nous empêche de nous remettre en cause, ça nous bloque, ça nous grève. Et Messi est un joueur qui a fait son âge, il a rendu des services, Basto l'a très très bien dit, et merci mille fois. Mais à un moment, il faut savoir passer à autre chose, quoi. PSG, c'est un petit peu comme avec une nana, ta nana, elle veut partir, tu lui donnes 100 000 balles, et puis ah bah bon, bah, je reste un an de plus, quoi. PSG, c'est Kanye West et les joueurs, c'est Kim Kardashian, quoi, à ce stade.
Vas-y, Rick.
Ouais, je suis d'accord aussi, personnellement. Bon, Nasser, il l'a dit, c'est fini les paillettes, etc. Donc, à un moment donné, place au projet sportif, place à un projet cohérent. Les stars, les ventes de maillots, c'est bien, mais ça nous a pour l'instant pas rapporté une Ligue des Champions, qui est l'objectif principal des Qataris quand ils sont arrivés. Donc, ouais, pour moi, ce serait incohérent, même si j'adore Messi et que c'est pour moi aussi le meilleur joueur de la saison cette année. Donc, ouais, pour moi, il faut savoir dire stop au bon moment. C'est la force d'un grand club, c'est la force de grands dirigeants de savoir dire stop au bon moment. Peut-être que tu peux regretter, on l'a déjà vu avec Thiago Silva, mais à un moment donné, il faut savoir prendre ses décisions, les assumer. Oui, bon, après, Thiago Silva, ça dépend. Il y a deux écoles, il y en a qui auraient aimé et d'autres non. Mais voilà, il faut savoir se renouveler, il faut savoir dire stop. Et pour moi, de prolonger Messi 2 ans, ça n'a aucune cohérence. Pour moi, il faut miser sur l'avenir, faire le projet autour de Mbappé si tu veux garder Mbappé. Voir ce que tu fais avec Neymar, mais en tout cas, pour moi, il y en a un des trois qui doit partir. Et pour moi, il n'y aurait pas de cohérence à garder Messi, bien que ce soit Messi.
Je peux réagir, ouais, vite, très rapidement. En fait, le truc, c'est que est-ce que Mbappé va partir? Oui, peut-être ou peut-être pas. Mais pour moi, Messi, en soi, alors que. Et c'est vraiment pas que je veux le mettre dehors. Encore une fois, il est exceptionnel cette saison. Mais pour moi, Messi, faut aussi qu'il parte, indépendamment du fait que Mbappé part. C'est-à-dire que s'il y a les deux qui partent, il y a les deux qui partent, et à partir de là, tu reconstruis. Mais si, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que si les deux partent, rien que ces deux joueurs qui partent, tu récupères pas loin de 100 millions d'euros en masse salariale. C'est monstrueux, ça métamorphose ton budget et tu peux recruter. Donc, ce ne serait pas forcément cataclysmique si les deux venaient à partir. Et pour moi, le départ de Messi ne devrait pas être conditionné au départ de Kylian Mbappé. Alors après, il y a les problématiques marketing à prendre en compte, machin, truc d'image, etc., etc., etc. Et ça, je maîtrise pas tout. Mais footballistiquement, il faudrait pas prolonger Mbappé sous prolonger Messi sous prétexte que Mbappé parte, quoi.
Ok. Bon, mais vous avez lancé un débat tout à l'heure dans le chat, donc on va continuer. N'hésitez pas à appeler le numéro si vous voulez réagir. Au vu de son niveau dernièrement, sa saison au club et son niveau avec l'équipe de France, et qu'il est en fin de contrat au mois de juin, lequel d'entre vous serait pour un retour d'Adrien Rabiot gratuitement, ce qui, entre guillemets, laverait l'affront de l'avoir perdu gratuitement il y a 5 ans. Vas-y, Dorius, commence.
Adrien Rabiot, c'est un joueur que j'ai défendu. Je me souviens, il y a eu certains matchs, notamment c'était avec Draxler et Verratti, où ça faisait un milieu très intéressant. On sait tous que Rabiot, c'est un joueur qui potentiellement a un très bon niveau. Mais le seul problème, c'est que c'est un joueur qui potentiellement a un très bon niveau, sauf qu'il a un baobab dans la main. Des fois, il s'est mis au milieu de terrain, t'as le mec qui va passer devant lui. Des gays comme il nous l'a fait au Bayern, et pourtant j'aime pas gays, hein. Mais des gays comme il nous l'a fait, c'était contre le Bayern, donc je sais plus exactement, avec mes problèmes de mort, je suis pas capable de situer l'équipe. Mais l'entrée scandaleuse de Gana Gueye, où il laisse passer, bah, si c'était contre le Bayern, où il laisse passer Joshua Kimmich, et bah, des fois Rabiot, et comme ça, il t'en fait 5 par match. Il va t'en faire 5 par match.
Juste pour corriger, c'est Gana Gueye versus Modric contre le Real de Madrid.
Ah voilà, c'est ça, merci. Exactement. Et il va t'en faire 5 par match. Et des fois, il va t'en faire 5 par match pendant 3 mois. Oui, là, il est bon, il fait 2-3 matchs et c'est génial et bravo pour lui. Et il va trouver un club alors qu'il s'est fait mettre dehors comme un malpropre par la Juve qui ne voulait plus entendre parler de lui. C'est un mec qui, en plus de ça, a créé je sais pas combien de problèmes. Et en plus de ça, en supposant qu'il devienne cohérent, qu'il ait vraiment grandi, quand il va retourner à Paris, il va retrouver son environnement. Bon, après, sa mère l'a suivi, mais sa mère sera toujours là. Sa mère va retrouver ses habitudes. C'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Coucher avec ses ex, parfois c'est une bonne idée, parfois c'est une mauvaise idée, et là ce serait clairement une très mauvaise idée.
Bah, je pense même pas que Rabiot ait envie de revenir au PSG, ça m'étonnerait très très fortement. Non, Rabiot, comme l'a dit Seb, c'est quelqu'un qui est à la fois irrégulier par période et à la fois irrégulier ou dilettant sur un match. On l'a vu contre le Danemark, hein, où il fait c'est peut-être le meilleur français sur la première mi-temps, et sur l'égalisation, c'est lui qui n'est pas au marquage, et parce qu'il marche un peu sur le terrain, etc. Et donc il est fautif, il va pas vraiment au duel. Et ça, c'est du Rabiot tout craché. Alors il fait un très bon début de saison, il est décisif avec la Juve, c'est peut-être leur meilleur milieu actuellement. Mais il a aussi été élu dans l'équipe flop de la Serie A l'année dernière par les médias. Donc voilà, c'est trop. Comme ça, on n'a pas, nous, au PSG, il faut de la consistance, quoi. On a trop eu de joueurs irréguliers. Non.
Oui, je suis d'accord avec tout ça. Il faut de la consistance. Il faut que ça marche aussi dans la tête. Et avec Rabiot, c'est trop compliqué. Mentalement, c'est pas ça. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Trop de polémiques, trop irrégulier. Voilà, c'est une histoire qui n'a pas fonctionné, alors qu'il y avait tout pour que ça fonctionne. On lui a fait la place. Tout était réuni pour qu'il s'émancipe au PSG, qu'il devienne un grand joueur. Voilà, il a raté l'occasion pour moi, même si là il est bon en ce moment avec la Juve, avec l'équipe de France, ce serait une erreur. On a besoin de guerriers, on a besoin de joueurs investis à 100% dans chaque match. Et pour moi, ce serait une erreur de prendre Rabiot. C'est incohérent avec le projet que tu veux monter et c'est incohérent avec les joueurs et les profils que recherche Luis Campos.
En plus. Et même que tout notre milieu actuel. T'as beaucoup de mal à imaginer Rabiot s'interfacer avec notre milieu actuel. C'est pour un milieu avec un jeu un peu plus direct et moins dans la. Enfin, pour moi, il serait pas cohérent avec le milieu actuel en plus.
Ok. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure dans les commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas soit en commentaire, soit en appelant le numéro, soit sur Discord comme vous préférez. Jusqu'à maintenant, on va faire un petit débat vite fait sur la Coupe du Monde. Vous avez apprécié les phases de poule parce que j'ai vu Bastos plaindre dans nos groupes régulièrement de purge qu'il avait à regarder. D'ailleurs, n'oubliez pas, sur notre chaîne Foot Central, on débriefe les matchs de la Coupe du Monde. D'ailleurs, je crois que Dryas et Bastos vous débriefent un peu aujourd'hui. Vous avez débriefé le match de l'Argentine, je crois.
Je fais les deux.
Vous pensez de cette Coupe du Monde jusque-là?
Moi, je fais les deux. T'as lancé qui
Vas-y, Bastos.
Ouais, alors c'est un débat. En fait, à force d'avoir parlé avec ceux, parce qu'en fait, je suis un peu en contradiction avec ceux qui disent c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Déjà, tu vois, avant les huitièmes, meilleure Coupe du Monde de l'histoire. C'est pas la pire, loin de là. Hein. 2010, 2014, pour moi, c'était en dessous. Maintenant, il y a eu du 98, du 2006 qui, pour moi, était au-dessus. Tout jouera sur les huitièmes, quart, demi-finale. Mais on arrive à un débat qui est plus vaste. C'est quel curseur on prend. Si c'est celui des surprises, des scénarios. Oui, c'est peut-être la Coupe du Monde où il y a eu le plus de surprises entre le Japon qui tape l'Espagne et l'Allemagne, la folle soirée de la dernière journée de ce groupe, l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine, etc., etc., etc. Et le fait qu'il n'y ait aucune équipe à 9 points, que tout soit joué à chaque groupe à la dernière journée, notamment la Corée qui se qualifie à la 92e encore hier, tout ça fait que niveau scénario et émotion du scénario, c'est peut-être la Coupe du Monde la plus folle. Maintenant, si on prend le curseur du niveau de jeu, on est loin des Coupes du Monde les plus fortes dans ce point de vue. Mais c'est plus vaste. Les équipes maintenant forment plus des athlètes que des footballeurs complets. On a l'impression que c'est plus le corps qui est travaillé au centre de formation que le cerveau. Et donc, quand on regarde les équipes de 98, quand il y avait les Bergkamp, tous les Ortega, enfin toutes ces équipes-là, on en a de moins en moins. Donc, au niveau du jeu, au niveau de la technique, surtout au niveau de la créativité, on est très en dessous du foot des années 2000. Et donc, il y a un nivellement qui est à la fois par le haut, avec des petites nations qui sont beaucoup plus structurées, beaucoup plus professionnelles, et en même temps, un nivellement par le bas, pour moi, qui est plus important que celui par le haut, des grandes équipes qui baissent sensiblement de niveau.
Tu veux y aller, Réas, ou j'y vais?
Comme tu veux. Pour moi, Basto a presque tout dit. Il y a juste, il y a ma grande différence avec Basto, c'est que pour moi, c'est trop tôt pour se former un avis. Mais on a eu une dernière journée qui d'un point de vue dramaturgique, a été exceptionnelle. Il faut appeler un chat un chat. Les retournements, je crois que c'est dans le groupe, je ne sais plus où il y a Costa Rica et je ne me souviens plus encore.
Les
Mais
deux derniers, les deux dernières journées.
ouais, bah oui, mais il y a, sur le groupe où il y a le Costa Rica, il y a eu une timeline de qui était premier, qui était deuxième, qui était troisième, quatrième en fonction du match. Et c'était un truc de fou, c'était un truc de malade. Tu as eu la Corée du Sud et qui dès la deuxième journée, puis avec cette fin en deuxième journée, il y a eu des morceaux de bravoure, il y a eu des matchs qui étaient vraiment très sympathiques. Mais comme le dit Basto, il y a aussi eu beaucoup de matchs où on s'est pas mal ennuyé. Pour en avoir vu beaucoup, je peux en témoigner. Il y a aussi beaucoup d'équipes dominantes qui pour l'instant, n'ont pas peut-être pas montré tout leur jeu, mais en tout cas n'ont pas montré un football qui est très chatoyant. Maintenant, au niveau dramaturgique, au niveau intérêt, cette Coupe du Monde, elle est là. C'est-à-dire qu'il y avait cette crainte avec l'hiver, avec etc., etc. Maintenant, la seule chose pour moi qu'on peut dire, c'est une fois qu'elle est lancée, maintenant elle est là. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment bien la Coupe du Monde sont dedans. Les débats autour du comment, du pourquoi ont disparu. On est vraiment recentré sur le football et elle a su s'imposer de cette manière-là. Après, pour avoir vraiment un avis et là où je rejoins Basto, c'est que on va peut-être avoir du mieux après, mais pour l'instant, footballistiquement, si on enlève la dimension dramaturgique, c'est vrai que je reste un petit peu sur ma faim.
Ouais, je suis assez d'accord, moi aussi. Il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, il n'y avait pas de hype autour de cette Coupe du Monde avant qu'elle arrive, parce que forcément, il y avait les matchs de championnat, il y avait la Ligue des Champions qui s'enchaînait, etc. Donc, on n'arrivait pas encore à se projeter. Et en plus de ça, c'est en hiver, donc on n'avait pas l'habitude. Donc, on n'était pas encore conditionné pour cette Coupe du Monde. Mais les gens ont oublié que, bah, en fait, c'est une Coupe du Monde. Et bah, qu'elle soit en hiver, en été, qu'elle arrive après 3-4 matchs de championnat, il y a une semaine. Peu importe, en fait, ça reste une Coupe du Monde et dans tous les cas, ça va nous procurer des émotions, ça reste du football et on va se mettre dedans. Et au final, tout le monde est dedans, mais tout le monde semble étonné. Bah non, c'était normal que finalement, bah, petit à petit, on soit dedans et qu'on soit content d'avoir la Coupe du Monde. En plus, c'est l'hiver et forcément, bah, même s'il y en a qui travaillent, etc., bon, on arrive à regarder quand même les matchs, on reste chez nous, on regarde les matchs, donc on est content que ça tombe l'hiver alors que l'été, des fois, on fait autre chose. Mais voilà, il y a ça déjà. Et puis ensuite de ça, je suis d'accord. Il y a tout l'aspect émotionnel, le fait qu'il y ait des surprises, donc on est content parce qu'il y a des scénarios qu'on n'attend pas, etc. Mais en termes de jeu, franchement, on s'est tapé énormément de purges. Et même dans des matchs où il y a eu des surprises et où on était content, bah, en termes de jeu, sincèrement, des fois, les matchs, c'est difficile à voir. En plus de ça, ils nous mettent des matchs à 100, 110 minutes parce qu'ils veulent un temps effectif d'au moins 90 minutes. Mais il y a des fois, les matchs sont longs. Sincèrement, il y a des fois, la 80e, tu te dis, mais ça va jamais se finir. Et t'as des équipes qui comme l'Espagne, qui ne sont plus ce qu'elles étaient, qui savent même plus utiliser le ballon correctement, je trouve. Peut-être que je suis dur avec eux, mais à un moment donné, tu t'ennuies. Ah ouais, non, franchement, je peux plus. Il y a un moment donné, tu t'ennuies, quoi. Et les matchs sont pas super agréables. Heureusement qu'il y a des surprises, heureusement qu'il y a des scénarios inattendus, jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute même, avec la Corée du Sud notamment. Parce que sinon, sincèrement, bah, ce serait une des pires coupes du monde. Donc après, on va voir. Pour dire si c'est une des meilleures ou pas avec ce qui se passe dans les phases finales. Mais pour l'instant, je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Certes, il y a des surprises, on est content. Il y a les quatre continents qui sont représentés en huitième pour la première fois. Il y a des gros qui sont passés à la trappe. Mais on va attendre de voir un peu les phases finales, de voir les gros matchs s'il va y avoir les matchs qu'on attend. Parce que c'est bien beau d'avoir un Brésil-Argentine, par exemple. Mais si le match, c'est une purge, bah, ça n'en fera pas une belle Coupe du Monde.
Juste rajouter quelque chose. Une chose que je trouve surtout ces derniers jours assez odieuse dans cette Coupe du Monde, c'est l'arbitrage vidéo. On a des appels intempestifs du VAR, du semi-orgie automatique, des choses qui mettent trois plombes. Ils vérifient ça 5, 6 fois par match. On est très loin de l'erreur manifeste, comme on peut voir en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Finalement, le VAR est utilisé, allez quoi, une fois chaque deux matchs. Là, c'est 4, 5 fois par match à chaque but pour une demi. Mais on a des pénaltys ridicules comme le dernier de l'Argentine au dernier match avec la sortie du gardien. C'est ça qui rend aussi les matchs longs, parce qu'après, ça rajoute de l'arrêt de jeu, ça rajoute des coupures. C'est compliqué de suivre un match en rythme avec à chaque fois des interventions technologiques. Là, c'est un peu usant, surtout depuis une dizaine de juin.
Et la minute 30, ça atténue l'émotion aussi. Hein. T'as marqué, il fait limite maintenant, t'as un
Oui.
but. En fait, la Basto a tout à fait raison là-dessus. C'est on a retrouvé les défauts du début de la VAR où tu sais, t'avais les joueurs qui marquaient, qui regardaient derrière en mode est-ce que ça va être validé? Et il y a vraiment ça. Et je l'ai notamment beaucoup senti dans le dernier match du Ghana où les joueurs étaient ah oui, c'est bon, on peut fêter. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant. Mais bon, après, on va pas ouvrir un débat sur la VAR, on se ferait des ennemis et c'est pas nécessaire. Nix?
T'as coupé ton
T'as le
micro.
micro coupé.
Allô?
Ouais.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Je voulais vous dire que je vous suis tout le temps.
Ah, bah c'est gentil. Ça fait plaisir.
Vous êtes trop fort.
Merci beaucoup. Tu voulais
Ah, c'est
parler de
Paris,
quelque.
les gars, c'est
Ah
Paris.
oui,
Vous
évidemment.
savez. J'en étais sûr, ça se
Je sais
voyait.
pas si c'était Barry ou
Je
Tonton, mais
voulais la
le
voix quand je t'ai grillé.
oui,
Mais
c'est
oui,
en
qui a
direct.
cru? Ah là là.
Qu'est-ce que tu veux rajouter, Barry?
La radio, elle bug.
T'as dit quoi?
La radio, elle bug. Tu passes en direct, non?
Bah ouais,
Ah,
là,
t'es
tu
en
m'as
direct,
entendu.
Barry. Allez, les bleus. Allez, les bleus. Vive l'Afrique qui gagne.
Mais qu'est-ce qu'il
Vive
raconte là?
l'Afrique qui gagne. J'étais juste venu vous dire bonjour. Et vous allez voir, un pays africain va la prendre, les gars. Passez une bonne journée.
Vas-y, retourne dormir, toi.
Vas-y,
Vas-y,
vive le
Barry, tu
combo.
j'allais dire quelque chose. Ah oui, on va aborder le côté concurrence. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ce monsieur-là.
La concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est meilleur que c'est joué. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la cam et l'autre, il va jouer.
Je voulais parler de concurrence avec vous parce que dans le milieu actuel, on a déjà pas mal de joueurs. Et là, j'ai vu quelque chose qui vient de sortir dans l'équipe hier soir, je crois. Comme quoi, le PSG surveille de près l'évolution de Xavi Simons cette saison et qu'il envisage de faire sauter la clause de 4 millions si jamais ils en ont besoin. Dans le milieu actuel du PSG, est-ce que vous pensez que Xavi Simons peut avoir du temps de jeu, voire même sa chance, clairement?
Y a un petit écho là.
Alors, moi je l'entends pas. C'est juste pour prévenir Perry Kibenga que la vente du parc, ça a été. On en a beaucoup débattu en fait et on va pas retrouver le débat. Mais Simons, oui, c'est un joueur utile, mais c'est déjà ce serait pas bon pour lui parce que clairement tu le prends pour le mettre sur le banc. Je pense pas qu'il est. Il y a cette espèce de hype et parce qu'il confirme dans le club dans lequel il est, ben, il y a plein de gens qui vont se dire ah mais j'avais raison d'être hypé. Ça, le problème c'est qu'il confirme à Eindhoven. Et c'est très bien de confirmer à Eindhoven, mais c'est pas confirmé au plus haut niveau, c'est pas confirmé là où ça va très vite. Et Simons, on connaît et ses qualités et ses défauts, on les voyait déjà à Paris. Alors peut-être qu'il a un petit peu progressé, mais ce n'est pas non plus pour l'instant. En tout cas, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que là-dessus, sur ce joueur, je me plante complètement. Mais pour moi, je ne le vois pas du tout devenu comme Nkunku. Et je trouve que c'est un joueur qui, moi, je le trouve très impressionnant au niveau physique, très impressionnant dans l'intentionnalité, mais très pauvre dans la variété de ses choix, la variété des options qu'il a balle au pied. Et du coup, j'ai jamais été fan du joueur et du coup, faut peut-être pas que je réponde en premier parce que je serais pas objectif le
Alors,
concernant.
moi je suis pas un grand fan non plus de Simon, parce que je pense à un plateau de verre qui se limite à des très bons clubs, mais pas à des titulaires en grand club. Maintenant, 4 millions. N'oublie pas que Simon, en fait, n'est plus milieu, il est attaquant, il joue clairement neuf à Eindhoven. ou de temps en temps soutien d'un attaquant. Donc si on le prend à 4 millions pour remplacer un Sarabia qu'on vendrait, avec Simons qui se retrouve dans la rotation offensive, qui prend de la valeur après cette saison,
mais qu'on l'achète 4,
il vaut peut-être déjà 15-20, il refait une saison au PSG où il joue en rotation à les 15 matchs titulaires, il reprend de la valeur, et là on peut juger est-ce qu'il a vraiment le niveau, et au pire, on peut le vendre non pas 4-5 millions, mais 15-20 millions.
Bah pour moi, il y a deux choses. Alors déjà, comme le disait Drias, il confirme au PSV Eindhoven, et moi j'ai du mal avec les Redivisie.
On y a vendu Sarabia avant, donc c'est une solution.
Oula,
de quoi?
Ouais, tu buguais. Du coup, je disais, le Redivisie, c'est un championnat où il faut se méfier quand même. Les joueurs qui statent, il y en a beaucoup, qui ne performent pas derrière quand ils partent dans un top club ou un top championnat. Donc, c'est pour moi à prendre avec des pincettes. Après, il y a l'intérêt aussi du joueur. Est-ce qu'il a envie de revenir? Si c'est pour être remplaçant, alors qu'il est en train de se développer et d'exploser avec le PSV, il n'aura aucune envie de revenir au PSG et d'être remplaçant. Certes, il aime le club, mais revenir pour être remplaçant et stopper un petit peu sa progression, non, c'est un jeune joueur, il a besoin de jouer. Et pour moi, ce serait une erreur de sa part de venir au PSG. Je pense qu'il n'a aucune intentionnalité de venir au PSG. Après, pour le PSG, est-ce que ce sera un bon choix de le rapatrier? À 4 millions, effectivement, tu peux avoir si tu fais partir Sarabia notamment, tu peux avoir un joueur intéressant en sortie de banc. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire? Sincèrement, ça me paraît compliqué au vu de la volonté du joueur. Et tu peux avoir Paris, tu peux avoir d'autres joueurs qui peuvent être meilleurs. Et pour moi, un Xavi Simons ne va pas forcément t'apporter les garanties que tu as besoin d'un vrai joueur de sortie de banc qui peut faire la différence dans des grands matchs.
Je voulais rebondir justement, et je trouve que la comparaison avec Sarabia, c'est ouais, si c'est pour lui donner le temps de jeu qu'à Sarabia au Paris Saint-Germain, mais c'est le mec, il est dans la construction de sa carrière, il est en train de trouver son niveau, il va sans doute s'exporter dans un autre club, et peut-être que je m'en mordrais les doigts hein, si nous fait une Nkunku. Sauf qu'Nkunku, j'y croyais au début et j'étais dégoûté de le voir partir. C'était pas le cas avec Simons, mais s'il nous fait une Nkunku, bah ouais, j'aurais eu tort et je serais le premier à le dire. Mais le truc, c'est qu'il y a, voilà, il y a, est-ce qu'il serait utile au Paris Saint-Germain? Perso, j'en doute. Et est-ce que ce serait bien pour le joueur? Non, ça serait cataclysmique pour lui. S'il vient à Paris, qu'il est bloqué pendant 2 ans, Basto, tu lui donnes 10-15 matchs par an. Est-ce que Sarabia va avoir 10-15 matchs dans l'année? J'en suis mais vraiment pas sûr.
Pour la deuxième partie de saison aussi.
On verra si à la fin de la saison il aligne le plus de 1000 minutes sur la saison, mais j'en suis vraiment pas sûr. Et je pense pas qu'un Simons ferait beaucoup mieux. Et je pense que ce serait juste le flinguer, quoi. Donc si je fais le bilan, c'est est-ce que ça nous rendrait service? Pas sûr. Ça flingue le joueur. Vas-y, laisse-le.
Ok, bah, je vous ai donné la parole. Maintenant, on va donner la parole à Xavi Simons qui est avec nous sur le plateau et il va vous dire ça.
Tu me parles pas là. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.
Voilà, on parle pas d'âge ici, on parle que de football et de niveau. Donc Xavi Simons,
il a la voix d'Mbappé quand même, Simons. Hein.
On va dire qu'il a la grippe. Bah écoutez, c'était un très très bon live. Je sais pas s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder. Ousmane et Nkunku l'année prochaine.
Bon, il va à Chelsea, a priori Nkunku.
Ouais, Nkunku, ça me paraît difficile. Dembélé l'a prolongé, je crois.
Et en plus, Ousmane à Paris, avec son environnement, c'est même pas la peine. Le joueur pourrait. C'est pas forcément une fraude, t'es un peu dur. Ok, mais tu ramènes un joueur pareil avec tout son environnement et tu commences à comprendre sur ce qui se passe avec les environnements, avec l'affaire Pogba. Ramener Ousmane Dembélé à Paris, ce serait une grosse erreur. Ce serait une grosse erreur.
Ok. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Bah, je passe à débat
sur. Ouais, puis pour tous les sujets, j'ai vu dans les commentaires, pour les sujets du Parc des Princes, le mercato d'hiver, on en a parlé juste avant, donc il faudra regarder le replay si vous l'avez raté. Et pour tout ce qui est du rachat du Parc des Princes et tout ça, on en a parlé dans une précédente vidéo, donc vous avez juste à regarder sur la chaîne, vous allez la trouver.
C'est juste qu'ils n'ont pas appelé ceux qui n'étaient pas d'accord, etc. Donc c'est un peu dommage.
C'est un peu tous d'accord.
À chaque fois qu'ils font des vidéos sur le sujet, tu sais, on prend que des gens qui sont bien d'accord, comme ça on sera sûr d'avoir raison, comme ça on va promouvoir l'idée.
Mais quel mytho, la semaine dernière, t'es venu.
Tu sais, moi j'ai eu le droit, genre, à un petit droit de réponse pendant un live. L'escroc, quoi.
Non, mais vous êtes.
Tu seras puni ce mois-ci, d'ailleurs.
Je lui ai donné une rubrique la semaine dernière, je lui ai fait faire son tribunal central. Et franchement, il a parlé pendant 2 minutes en monologue. Donc, je pense que c'est assez long pour un droit de réponse.
Ouais, sauf que toi, tu avais fait une première vidéo avec Barry, et juste derrière, tu fais une autre vidéo avec Rekoma de plus de 20 minutes pour redire tout le bien que vous pensez de
On n'a
ça.
qu'à faire une vidéo solo, Seb!
Ouais, non, mais non, mais non, mais il fait, je sais pas, quand vous amenez un sujet, n'ayez pas peur des contradictions. Enfin, après,
Non, non,
ils
non,
sont
mais
tellement pas sûrs de
là,
leur point de vue,
clairement.
ils sont tellement pas sûrs de leur point de vue que bon.
Carton
Non,
rouge pour
non,
Dryas!
pas du tout, pas du tout, parce que clairement, Barry Amour, on est dans une propagande. C'est pas pareil. Là, on est en train de
Voilà, c'est
propager
ça,
des
c'est
idées
ça,
de il faut quitter le
c'est ça,
parc
c'est ça, c'est ça.
parce que ça y est. Parce que les ultras, je les aime beaucoup. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours été ultra d'accord avec les ultras. Là, c'est le premier point de rupture où là, je pense, comme il a dit Barry, ils sont un peu dans l'égoïsme parce qu'ils ont leur abonnement, ils sont tranquilles, tous les week-ends, ils peuvent y aller tranquillement. Et ils pensent pas à la génération d'après qui va venir. Ils sont trop centrés sur
Mais
nous. On a des souvenirs de ouf là-bas. C'est notre stade, la dada. Sauf qu'ils
elle
pensent
est
pas à la
naïve.
génération d'après. C'est là où le point de rupture avec moi et les ultras, ça y est.
Non, mais
Et
l'histoire d'un
encore.
club, c'est tout un film, hein. C'est pas une génération d'après.
C'est complètement naïf, en fait. C'est complètement naïf. T'imaginer que les Qatars vont vendre ça pas cher aux petits copains de cité quand il y a des Chinois très riches qui viendront à Paris pour acheter les places.
Mais
Enfin,
ils n'ont pas le
faut...
choix, Dryas. Comment tu remplis
Oui.
un stade de 100 000 personnes en mettant les places à 150 euros, par exemple? C'est
Il sera pas
impossible.
rempli avec les touristes, sans aucun problème.
Mais il n'y aura pas
Non.
assez de touristes. Il n'y aura pas assez de
Non, mais
touristes. Faut
déjà
pas.
d'avoir plus de places, ça va quand même réguler l'offre et la demande un minimum. Donc déjà,
Bah
on s'en
oui.
sortira quand même mieux.
Ça dépend,
Après,
ça.
tu peux faire des tribunes, tu peux faire des tribunes famille, des choses comme ça. Tu peux.
Est-ce que les stades de 60 000 places, ils sont devenus pas chers en Angleterre? Quel est le prix des stades de
Sont pas
80 000 places?
remplis.
Non, mais après, tu as des contre-exemples. Regarde le
Ah,
Bayern, toute la zone 5, c'est 19 euros la place. Tu vois, c'est moins cher. Donc, tu peux toujours faire
Non, moi, je pense.
une tribune moins chère.
Moi, je pense qu'on aura, si on a un stade, alors si c'est le Stade de France, moi là, ce serait une catastrophe, disons 80 000 places, je ne suis pas sûr qu'on se retrouve avec des places moins chères, mais on se retrouvera avec une partie vide dans le stade.
Bah
Qui
non,
sera...
vide, non, je pense
bah non,
bah, c'est ce
je
qu'on
vous
voit dans beaucoup
explique.
de clubs qui ont agrandi leur stade. Déjà que le parc, post-élimination Ligue des Champions, c'est pas plein.
Non,
On
mais c'est pas
verra. Hein,
ça.
avec, euh... Pour
En
moi,
fait, c'est
Nick,
le
vous êtes
système,
vraiment dans le fantasme.
c'est le
Vous êtes
système de
vraiment dans
ticket place. C'est le système de ticket place qui fera en sorte que
Oui,
le
c'est
stade il
ça.
sera rempli. Parce que moi, comme je vous ai dit la dernière fois, pour avoir été abonné, ce qui se passe, c'est que par exemple, un match de foot, moi je vais le mettre à. Vas-y, je vais mettre ma place à 100 euros. À 2 jours avant le match, je vais voir qu'elle part pas, je vais la descendre à 80 euros. Après, il va y avoir une sorte d'enchère vers le bas qui va faire en sorte que, vas-y, à 24 heures du match, la place, elle sera à 60 euros, 50 euros, il y a quelqu'un qui va la prendre. Donc, il y a des mecs qui vont préférer vendre leur place 40, 50 euros plutôt que la garder et que le stade y soit vide parce qu'il va perdre 50 euros. Moi, je préfère vendre 40 euros que rien du tout, je suis désolé.
Mais jusqu'au jour où ces mecs-là, c'est un business qui est plus rentable, donc j'arrête d'acheter des places. Et du coup, il y aura tout simplement plus de places à vendre sur Ticketplace et tu pourras acheter tes places directement au Parc des Princes et c'est le Parc des Princes qui pratiquera des tarifs élevés. Et c'est aussi simple que ça.
Mais
C'est
c'est pas possible, Dryas. Parce que regarde, il y a une demande d'abonnement qui est à 50 000 personnes. La demande d'abonnement est
Oui,
plus
mais parce
élevée
qu'il y
que
a un
le
vrai
stade lui-même.
business
Parce
derrière.
qu'il y a un business de
Parce qu'il y
ticket-place
a
de
un
mecs
vrai
qui viennent
business
voir trois
derrière.
matchs l'année et qui revendent le reste.
Les 50 000, il y
Oui,
en a
mais pas sur
30 000
les
qui devraient être
50 000.
construits. Non, mais tu as une
Non,
partie.
pas sur les 50 000. Oui, il y a une
Non,
partie, mais quand
sur les
même, tu as
50 000,
énormément
tu
de
as
gens
peut-être
qui veulent
5-6
venir
000.
voir le
Enfin,
PSG.
vous êtes, pour moi, vous êtes dans une construction mentale du ben voilà, si c'est simple, si on met plus de place, ah ben tiens, il y a ça qui s'écroule, il y a ça qui s'écroule. Mais vous trouvez que des éléments en fait qui vont entretenir la projection que vous vous êtes créée. Mais rien ne vous garantit, vous n'avez aucun élément objectif pour dire, ah bah tiens, si ça passe mécaniquement, t'en sais rien. Ça se trouve, il y a juste beaucoup moins de gens qui achèteront des places. Et effectivement, bah, tu achèteras directement tes places au parc, mais les places au parc sont vendues cher. Ça se trouve, le parc aura effectivement, comme tu le suggérais, Rico, tellement de places qu'ils feront une tribune pas chère, etc. Et ça sera sans doute le cas pendant 2 ou 3 ans, de toute façon, ça. Mais est-ce que ça sera le cas à terme? Est-ce que si Paris continue à se développer en tant que marque, avec les Jordan, les machins, les trucs, et que tout à coup, tu arrives sur certains mois où il y a beaucoup de touristes, et que venir au Parc des Princes, un petit peu comme ça se passe au Camp Nou, c'est devenu une attraction obligée, ben à ce moment-là, c'est pareil, hein, le petit ref, il n'aura pas sa place. Et il n'aura pas sa place. Et le truc, si tu veux, c'est que tu es dans la projection. Parce que ça entretient la vision que tu t'es créée, mais en soi, qui n'est qu'une projection, qui n'est absolument pas quelque chose de réel. Par contre, une chose qui est réelle, c'est que si tu pars du parc, tu te coupes de ton histoire. Encore plus.
Pas vrai.
Ben, encore plus, laisse-moi finir, encore plus que ce que tu te coupes de ton histoire depuis l'arrivée des Qataris. Qui, dans les supporters qui sont nés post-année 2000, savent que le Paris Saint-Germain était est le seul club français à avoir été le premier au classement UEFA de toute l'histoire du foot français. Le PSG a été le seul, et c'était dans les années 90, et c'est quelque chose qui n'est pas valorisé au Paris Saint-Germain, et depuis les Qataris, ce n'est absolument pas valorisé. Et pourtant, c'est quelque chose qui est quand même notable, que les supporters devraient connaître, même les supporters jeunes, c'est quelque chose qui devrait leur avoir été transmis. Et dire, bah, déjà qu'on enlève ça, la manière avec laquelle les participations de Rai, de Paoletta, qui se sont proposées, ont été traitées, tu peux ajouter les trucs. Et puis maintenant, si tu rajoutes le Parc des Princes, me dire que tu ne te coupes pas de l'histoire.
Non, alors, en fait, j'y crois pas. Tu as des clubs comme l'Atlético, je ne sais pas quoi, qui ont changé de stade récemment, mais ils ne changent pas pour autant d'histoire parce qu'il y a un fil. Il y a un fil qui est là. Des fois, tu es obligé de changer de stade parce que t'as besoin. Hein, beaucoup de faits. Arsenal s'est coupé d'Ibery, ça a mis longtemps à renaître. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'ils ont perdu leur histoire. Mais le problème, c'est que depuis l'arrivée du Qatar, le PSG, pour moi, ce n'est plus vraiment le PSG. C'est déjà un autre club qui porte le nom PSG. Et donc, si là, tu te coupes du parc, pour moi, il n'y a plus rien d'attache. Il n'y a plus rien d'attache avec le club d'avant le Qatar et le club que QSI, qui pour moi n'est plus PSG, ne serait plus PSG définitivement, mais juste un autre club qui porte le nom PSG.
Et je vais préciser juste pour Harry, oui, je sais que les Marseillais sont les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions, et d'ailleurs sont les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions achetée. Là-dessus aussi, c'est les premiers en Europe. Mais indépendamment de ça, si Marseille a gagné la Ligue des Champions, Marseille n'a jamais été premier au classement UEFA. Et Paris a été premier au classement UEFA, je pense que c'est en 96, 97, 97.
C'est pas un truc qui est très important au classement UEFA.
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, Dreyas. C'est pas une victoire, ça. Dans ce cas-là, quid de
je ne sais même pas combien de demi-finales enchaînées.
Ouais, 4 demi-finales de suite, ça, combien de gens le savent dans les 20 ans, ça, c'est...
Quid du fait d'avoir eu, sur cette période-là, et une époque où le football italien, tout le monde était en train de s'exciter sur le football italien, une des équipes qui faisait le plus peur en Europe.
Non, mais après, ça dépend, tout ça. Ça dépend comment c'est véhiculé dans les familles, ça dépend les supporters, si vraiment aussi ils s'intéressent vraiment à l'histoire du club ou s'ils s'arrêtent juste à maintenant. Il y a des supporters tout jeunes maintenant qui sont au courant de tout ça. T'en as d'autres, non, mais c'est comme pour tout. T'as dans des familles où la legacy du PSG, voilà, dès que le petit il est là, hop, maillot du PSG, on lui apprend l'histoire, on l'amène au parc. Dans d'autres familles, non, on va laisser le petit s'intéresser au foot ou pas, s'intéresser au PSG ou pas. Donc, ça dépend des familles. Mais dans tous les cas, pour moi, l'histoire du PSG sera toujours véhiculée. Il y a les images, il y a les vidéos, il y a les souvenirs. Il y a la famille qui va t'inculquer tout ce qui s'est passé, etc. Et pour moi, de changer de stade n'est pas une fin en soi. Oui. C'est simplement, comme je prenais l'exemple de l'appartement, tu as vécu dans un appartement, tu as vécu énormément de belles choses, mais tout ça, ça reste dans la tête. Et ce n'est pas parce que tu changes pour une maison plus grande que tout s'arrête. Ton histoire, elle est là, elle restera là et tu vas continuer une nouvelle histoire, une belle histoire aussi dans une belle maison avec une famille qui s'agrandit, un chien, une piscine, etc. Et ce n'est pas parce que tu changes de maison que tu renies en fait tout ce que tu as pu vivre dans ton appartement avant.
Alors, j'entends ce que tu dis, hein, et je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Il s'agit pas d'être. Il y a une nuance entre se couper du passé et être passéiste. Et il y a un entre deux. Et comme Basto le rappelait, il y a des équipes qui ont changé de stade parce que le stade n'était plus adapté, etc., etc. Et le très bon exemple, c'est Arsenal. Et d'ailleurs, à Arsenal, les débats étaient les mêmes avant la création du stade. Il y a je ne sais combien de supporters qui ont annoncé qu'ils n'iraient jamais puisque c'était plus... Alors, je vais dire Highbury, mais ça se trouve, Highbury, c'est le nouveau. Parce que moi, avec
c'est l'Emirates, ouais.
Ouais, voilà. Et j'irai pas à l'Emirates parce qu'à Highbury, etc. Il y a énormément de commentaires comme ça. Mais le truc, c'est que les propriétaires d'Arsenal n'étaient pas aussi violents que les Qataris par rapport à l'héritage. Les Qataris, dans les faits, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ils sont achetés un joujou, faut que ce soit leur joujou, faut que ce soit leur nom au-dessus. Et ce qui s'est passé avant, fondamentalement, ils s'en branlent. Et si c'était trop visible, ça les emmerderait.
Mais ça, c'est partout. Ah, je sais pas
pourquoi
tu mets ça sur le Qatar. Parce que moi, à l'époque de Colonie Capitale, je suis désolé, je ne les ai pas sentis énormément basés sur l'histoire. C'était pareil,
ils
étaient
là pour faire de l'argent.
Et ce que j'aime bien avec le Qatar, c'est qu'au contraire de Colonie Capitale et d'autres investisseurs américains comme à Liverpool, ils ne sont pas là pour faire de l'argent et après partir dans ça. Quoi, parce que les gars de Liverpool, ils ont fait leur thune. Ça y est, ils se barrent. Le Qatar, ils ont le même objectif que les supporters du Paris Saint-Germain. Ils veulent gagner. Donc nous, on veut gagner. Eux, ils veulent gagner. Nos objectifs, ils sont en commun. Qu'ils veulent que le quatrième maillot il soit en Bordeaux ou couleur Qatar, j'en ai rien à foutre.
Je suis pas sûr qu'ils peuvent gagner. Ils veulent qu'on parle d'eux. Ils veulent faire le PSG, un homme sandwich. C'est pas gagné, je m'en fous. Je suis pas sûr qu'ils
veulent gagner. Mais juste, t'as déjà vu Nasser après les matchs de Ligue des Champions.
Ils sont très contents, hein. Ils remettent 10 millions sur Messi, puis 50 sur machin, parce que ça va parler d'eux. Est-ce qu'ils construisent un projet sportif? Ça fait 10 ans qu'on en parle et non. Donc.
Attends, c'était. Oui, c'était. Oui, le Qatar, c'est le soft power. Tu donnes l'exemple de Colonie Capitale. Le Colonie Capitale, effectivement, faisait rien pour le parc et il faisait rien pour Paris et il s'en foutait du passé. Mais c'est une chose que de s'en foutre du passé ou de vouloir utiliser le PSG comme arme de communication. Et à ce moment-là, tout ce qui n'est pas toi du PSG, tu as la volonté de le retirer. Et c'est pas la même chose. Alors après, peut-être que des gens peuvent dire que je dis de la merde comme Julien Brière, mais c'est mon avis. C'est mon avis. Et oui, tu changes de stade, mais moi, je suis pas attaché par principe à ne jamais changer de stade. Ma problématique, c'est si tu retires tous les éléments d'attache en même temps, et comme le rappelait tout à l'heure Basto, il y a beaucoup d'éléments d'attache qui ont été retirés, il y a un moment où tu te prives de ton histoire. Et puis, enfin... Voilà, et le truc, c'est qu'on le fait sur la construction d'un fantasme, parce que le scénario que vous êtes en train de vendre, Nyx, c'est un fantasme, c'est le petit
frère. Seb, tu l'as déjà dit, laisse la parole un peu.
Rekoba.
Tu vas dire sur un truc de Rekoba depuis 10 minutes.
C'est là où je ne suis pas d'accord par rapport à tout ce que j'ai dit.
Je vais jamais réussir à placer mon truc.
Ah, t'inquiète, juste deux secondes. C'est là où je ne suis pas d'accord par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Mais en plus de ça, là où je ne suis pas d'accord, c'est parce que Nasser a dit lui-même qu'il voudrait rester au Parc des Princes et que si c'était possible, il ferait un parc à 60-70, sauf que la mairie pose problème. Mais à un moment donné, il a perdu 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils perdent de l'argent, ça fait 5 ans qu'ils se battent, ça fait 5 ans qu'ils attendent et que la mairie leur met des doigts. Donc à un moment donné, il a dit on va partir et il veut pas aller au stade de France, il veut construire son propre stade, mais à un moment donné, si tu peux pas racheter le Parc des Princes et garder ton histoire parce qu'on t'en empêche, t'es bien obligé de partir.
Oui, ça c'est autre chose. Voilà, si le club voulait faire ça, mais après, c'est ceux qui veulent quitter le parc, les supporters qui veulent quitter le parc, quoi qu'il arrive, soit hors débat, mairie. Juste par rapport à l'histoire, tout à l'heure, tu parlais des jeunes supporters, s'ils sont éduqués par la famille ou par eux-mêmes, s'ils font des recherches sur l'histoire du club, mais il y a aussi. Un joueur, quand il arrive au PSG, est-ce qu'il ressent l'histoire du club et le passé du club? Non. Mota ne savait même pas que le PSG avait gagné une Coupe d'Europe. On en parlait il y a 5-6 ans. L'histoire qui est racontée, tu vas dans les couloirs du parc et tout, on raconte quoi?
Qui t'a dit Mota?
Mota, quoi?
Mota.
Ouais, Mota, il savait pas que le PSG avait gagné une Coupe des Coupes en 96. Donc, quand t'es dans les couloirs du parc et tout ça, l'histoire racontée, c'est celle QSI. C'est pas l'histoire du PSG. Alors que dans les autres clubs, souvent les joueurs disent on vient et on sent l'histoire. Même au Real Madrid, qui est dans un côté aussi un peu Disneyland, etc., il y a des choses du passé, notamment qui est distribué à chaque joueur. C'est les espèces de 10 commandements de Boutragueña, qui est il ne faut jamais lâcher, on peut toujours gagner, les fameuses remontadas du Real. D'ailleurs, on l'a vu l'année dernière, le Real, comment il gagne la Ligue des Champions. Ce sont des choses du passé qui sont inculquées, distribuées aux joueurs. Paris, t'arrives, t'as pas ça. Les joueurs, ils ne connaissent pas le passé du club. Ils connaissent le PSG QSI. Ils arrivent, c'est Mbappé, Neymar, tantôt Nuno Mendes, c'est ça, quoi, quand il arrive.
Mais c'est là, je ne suis pas d'accord avec vous, les gars, parce que moi, je suis supporter du PSG, j'aime beaucoup ce club. Mais au bout d'un moment, il faut être humble. L'histoire, on est là depuis 1970. L'histoire, notre histoire, elle est toute petite comme ça. Qu'on me parle d'histoire, on ne veut pas quitter le parc parce qu'il y a une question d'histoire. Il y a des clubs qui ont 5, 7 Ligues des Champions. Il y a Milan AC qui a une histoire qui. Elle tabasse l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui. Ils vont quitter San Siro. Il y a des clubs, ils sont à des années-lumière que nous. J'adore ce club, mais il faut arrêter de dire que le PSG, il a une histoire folle. On a une histoire, elle est toute petite. On est là depuis 50 ans. Il n'y a rien qui motiverait de rester dans le stade pour une histoire parce qu'on a fait 4 demi-finales d'affilée. C'est pas des titres. Il y a des clubs, ils ont gagné 5 Ligues des Champions, ils vont sortir, ils vont quitter leur stade. Donc l'histoire qu'on a, elle est belle, tout ce que vous voulez. On a eu des frissons, tout ce que vous voulez. Mais elle nécessite pas que le club arrête d'avancer parce qu'elle n'est pas assez forte. Et dire aux joueurs quoi, tu vas faire des nouveaux joueurs arriver, tu vas leur dire ah oui, mais on a fait quatre demi-finales
Bah
d'affilée.
oui, tu
Mais
leur
c'est pas un
distribues.
titre. C'est pas un titre, les gars, je suis désolé.
Là, on commence
C'est
à entendre la
réel.
vérité. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le scénario du petit frère, quoi. Parce que ça, c'est la veuve et orphelin, et c'est un petit peu chiant comme argument, pour être honnête.
Bah, c'est
Mais
plusieurs arguments, Dreas. Tout n'est pas noir et blanc. Il y a beaucoup
non, non,
d'arguments.
mais
Moi,
oui,
j'en
non,
ai
mais voilà,
14
mais
si
ce
tu
que je veux
veux.
dire, c'est que cet argumentaire-là sur les prix ticket place, machin truc, c'est de la projection sur le futur, et il y a plein de données qui peuvent changer ça et qui feront que de toute façon, ce sera différent que ce que vous anticipez ou que ce que moi je crains. Voilà, ça sera comme ce sera. Maintenant, tu soulèves un truc très juste. Paris Saint-Germain est un jeune club. Et effectivement, quand tu, par exemple, si tu parles de l'Italie, mais moi, ce que j'essaie de faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que c'est en processus accéléré avec les Qataris, cette problématique-là. Mais tu parles de l'Italie, tu parles du Milan AC, on parle d'un club de 100 ans qui a trois Ligues des Champions, qui a gagné je ne sais pas combien de Scudetto. Ils peuvent partir, ils resteront le Milan AC. Ils resteront ce Milan AC affilié à tout passé. Et Paris, bah, qui justement, a, comme tu l'as rappelé, une petite histoire, même si elle est très riche, Paris, c'est. Premier classement au club UEFA, le premier
Depuis
club
toute
en France à
l'expérience.
avoir des ultras, etc., etc. Et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et Paris, c'est une histoire qui est extrêmement riche. Le seul club en France à avoir fait cette fête privée de ces groupes de supporters, etc. Mais bah, c'est une fragile histoire. Et le truc, bah, c'est que tout est fait pour la mettre sous le tapis. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le sujet, et c'est ça l'enjeu, parce que justement, effectivement, quand tu prends Milan, bah, tu as des investisseurs qui arrivent au Milan, ils pourront pas, même s'ils essayent, ils pourront pas se priver du passé. Mais à Paris, tu peux le faire. Et à Paris, ils le font. Et comme le rappelait Basso, et j'insiste dessus, tu as des trucs organisés par les clubs, des distributions de tracts, des ouvertures de bidules, de machins de bidules. Quand tu vas au Real, tu as toute l'histoire, tout l'historique au travers du fameux musée aux trophées où on te raconte toutes les grandes époques, etc., etc., où on te rappelle le truc d'histoire. Ça vient pas que de la famille, ça vient aussi du club, l'histoire. Et pas à Paris.
Oui, mais
L'histoire,
pour moi,
ça
c'est
s'écrit.
l'histoire, elle est. L'histoire, oh, c'est exactement ça, mais l'histoire, justement, elle est, comme tu dis, l'histoire, elle est fragile, mais parce que l'histoire, elle est petite. On est très jeune et on n'a pas vécu beaucoup de choses, en fait, en Europe. On n'est pas, avant que les Qataris arrivent, on n'était pas un grand d'Europe. On l'a été sur une petite courte durée. Bah non, mais c'est la réalité. On l'a été
Pour
sur,
5-6
bah oui, mais
ans.
5-6 ans. 5-6 ans comparé au Real, au Milan, qui sont des grands clubs depuis 100 ans. Nous, on n'est rien. Et c'est pour ça que l'histoire, oui, on peut la véhiculer, mais à un moment donné, ce n'est pas étonnant qu'un Thiago Motta, quand il arrive, ils ne savent pas qu'on a été en 96 en finale ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, qu'on gagne le
Ça
titre.
doit être affiché dans les couloirs du parc, la photo de la
Oui, mais
coupe.
l'afficher dans les couloirs, l'afficher dans les couloirs, je peux comprendre. Mais que des Sud-Américains, etc., de leur âge arrivent et ne le savent pas, pour moi, c'est
Non, mais
normal.
qu'eux
Et
ne
t'as
le
beau
savent pas,
vouloir
c'est pas
faire
ça le
durer
problème.
cette histoire.
C'est que 3 ans, c'était 3 ans après qu'il soit au club qui disait qu'il n'était pas au courant. Quand il arrive, qu'il ne le sache pas, c'est normal. Qu'il ne le sache pas parce que le club ne l'a pas dit d'une manière ou d'une autre. Par des photos ou par des choses données sur qui ne les fassent pas intéresser à l'histoire du club. Et là, il y a un problème.
Mais
Oui,
c'est
un
parce que
problème.
l'histoire, elle est trop petite et trop courte comparée au
Non.
Milan,
Justement,
au
elle est
Real
facile à dire.
Madrid,
Ça se
etc.
construit, ça se
C'est
construit, ça
vrai.
se construit, ça.
Mais facile à
Mais...
dire, facile à dire. Comment vous voulez motiver des joueurs à aller gagner des titres et être dans un grand club européen en disant, waouh, on a fait une demi-finale. Les gars, il y a un
Non,
moment,
non,
c'est
on a
pas
gagné
ça,
une
c'est pas ça
finale. Hein.
mon point.
Il
On a
faut
gagné
qu'à
pas ça,
Paris,
c'est
à
pas
Madrid.
unique.
C'est comme si tu prends un club français et tu dis que je sais pas, je sais pas quel club français qui a été en finale de Ligue des Champions qu'on n'entend plus parler.
Alors,
Moi, ce qui
Saint-Étienne,
me
vous
fait
êtes
peur,
tous les poteaux carrés,
ouais.
hein.
Bah voilà, tu vois, il faut des ambitions qui soient à la hauteur de ce
Enfin,
que tu
pas
veux
tous.
chercher. Moi, ce qui me fait peur avec le Paris Saint-Germain maintenant, quand vous me parlez d'histoire, c'est qu'on se retrouve à devenir comme Marseille. Et on va se retrouver à un club qui va dire on a gagné une Ligue des Champions il y a 20 ans, mais maintenant il n'y a plus rien. Parce que dans la concurrence, il y a deux choses. C'est soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de statu quo. Donc
Non, je vais
là,
donner.
soit le PSG, il avance et il devient plus grand, soit il fait son statu quo. Et peut-être, je sais pas, dans 5-6 ans, il y a des Saoudiens, ils vont acheter un autre club français qui va venir et qui va nous rattraper, qui va acheter son stade et qui aura des plus gros revenus que nous. Et on va finir comme l'OL. On va finir
Ou alors
exactement
tu te
comme
retrouves,
l'Olympique lyonnais.
à te couper de ton histoire comme les Glazers à United, virer les Ferguson, etc., faire complètement autre chose et avoir un club qui, malgré qu'il y a de l'argent, n'avance plus et avoir des supporters qui créent un nouveau club en Division 7, qui est le United, le FC United. Tu vois, tout est possible. Ils ont dû se couper de l'histoire, ça a été une catastrophe. Donc,
Et c'est un très très bon exemple. Et en fait, si tu veux, c'est oui, tu peux rester enfermé dans l'histoire. Et comme tu le rappelles, Paris, l'histoire, elle est pas si immense. Et on est d'accord là-dessus. Et tu peux rester enfermé dans l'histoire. Et c'est un problème. Alors après, je lirai après le commentaire parce que je peux pas parler et lire en même temps. Ah, mais je lirai juste après. Tu peux le faire. Mais le truc, c'est que tu peux aussi ne pas être passéiste sans pour autant être révisionniste. Tu vois, il y a, t'es pas obligé d'être dans l'extrémité. Alors, d'une certaine manière, si vous voulez, ce qu'on discute, c'est plus large, en fait, que le fait de déménager du Parc des Princes. C'est le rapport des dirigeants actuels avec le Paris Saint-Germain. L'intentionnalité qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'ils cherchent à raconter l'histoire du Paris Saint-Germain? Et le truc, c'est que les Qataris sont révisionnistes. C'est comme si, en fait, avant, il ne s'était rien passé. Le PSG est limite né de l'enfant du Cheikh Al Tamim, du ventre de Cheikh Al Tamim. Il est sorti et puis ça a donné le PSG, quoi. Et c'est ça. Il est là le problème. Il est là la perception du problème. Tu vois, le truc, c'est, j'aurais jamais parlé de ça. J'aurais jamais utilisé le départ du Parc des Princes comme tribune s'il n'y avait pas cette problématique-là. Et en fait, le Parc des Princes devient un symbole, pour moi en tout cas, parce qu'il y a cette problématique-là. Parce que si tu retires le parc, et c'est ce que disait Basto au début, c'est quel lien reste-t-il entre moi et ce club que j'ai appris à aimer en ne mangeant que des purges? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'il y a de tangible? Le fait qu'on gagne la Ligue des Champions avec des maillots X Jordan? Est-ce que c'est ça, avoir une relation avec un club?
Bah, en fait, la relation, je suis désolé, elle est avec le club, elle est avec l'écusson, elle n'est pas avec la pierre, en fait, elle n'est pas avec le Parc des Princes. La relation que moi, j'ai avec le Parc des Princes, moi, je vais vous dire quelque chose.
On est d'accord.
Moi, j'ai été au Parc des Princes très tard, parce que moi, j'habitais dans les dom-toms. J'étais au Parc des Princes très tard. Ça ne m'a pas empêché, pendant 12, 15 ans de ma vie, sans avoir mis un pied dans ce stade, de kiffer ce club avec tout ce que j'ai. Donc, en fait, la pierre, c'est l'écusson, c'est l'écusson qu'il y a sur le maillot. C'est ça mon lien avec le Paris Saint-Germain. Ça sera dans 4 stades après, si vous voulez changer de stade 4 fois après. Mon amour pour le Paris Saint-Germain, il sera toujours le même. Moi, je m'en fous dans quel stade on va jouer. Arrive à un stade, moi, je veux voir le PSG, mon écusson, mon rouge et bleu, à la limite la bande Hechter. Parce que ça, c'est ce qui m'a fait kiffer le PSG au début, c'était on avait la bande Hechter. Que ça reste, ok, que le parc... une pierre qui est maintenant qui commence à devenir trop obsolète entre guillemets pour le monde actuel, moi c'est pas ça qui m'attache au Paris Saint-Germain, c'est le club, c'est l'insigne, c'est les couleurs, peu importe le stade, ce sera toujours le Paris Saint-Germain.
Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Nix, et j'aimerais te poser une simple question. Il a fallu combien de temps pour avoir les titres, et il a fallu combien de temps ne serait-ce que pour avoir nos couleurs, et combien de temps il y a eu des tentatives de se déplacer par rapport à nos couleurs sous les Qataris, plus que jamais dans l'histoire et plus que jamais dans beaucoup d'histoire de beaucoup de clubs. Et c'est... Non, mais laisse-moi finir. C'est ça le sujet. C'est effectivement, c'est ça. Tu vois, par exemple, toi, tu vas nommer, moi, pour moi, alors, c'est sans doute le parc, enfin, c'est plus des matchs même, mais tu vois, tu vas nommer ça avec l'écusson, le maillot, le machin, le truc. Qu'est-ce qui te dit que dans 3 ans, bah, le maillot, il ressemblera toujours, il sera toujours bleu et rouge? Qu'est-ce qui te dit que... Parce qu'il y a une tentative, justement, de faire autre chose à ce niveau-là. Nix. De trouver des trucs, de machin, de bidule. Et tout est comme ça. Et là où je suis pas dans le mauvais procès pour les Qataris, dans le sens où, fondamentalement, tout le monde fait ça dans le monde à l'heure actuelle. L'avantage qu'ont les autres clubs, c'est de pouvoir se rattacher à une histoire, ce que nous, on n'a pas, et que quand les Qataris le font, ça fait mal. À cette relation-là avec le passé.
J'ai plus beaucoup de batterie, donc si je peux conclure là-dessus. Il y a quand même, quand tu interroges, je sais pas, ton boucher, dans les bars, quand tu discutes avec des gens, ton libraire, peu importe, des gens qui étaient amoureux du PSG avant le Qatar, ils ont 40, 50, 60 ans. Il y en a énormément qui se détachent du club depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains dès le début, avec le plan Le Prou, certes, ça c'est autre chose, mais qui sont désintéressés du club petit à petit. Moi, j'ai pu acheter de maillot depuis quoi, 6-7 ans, alors que je l'achetais tous les ans. Je suis pas allé au parc depuis 5 ans, alors que j'y allais et j'étais abonné avant. Donc, ça existe une partie, comme Dryas et moi, ce club n'est plus vraiment le nôtre. Et du coup, on ne va plus acheter des maillots parce qu'on n'y pense même pas. On ne va pas au parc parce que bon, voilà. Donc, ça existe et on ne peut pas le nier. Et ça, c'est une... ça vient du fonctionnement qatari.
Ou de l'évolution du foot moderne. Tu vois, on ne peut pas forcément tout mettre sur les Qataris. C'est le foot moderne qui a vraiment changé dans son rapport avec les, avec les gens. Il y a quelque chose qui a changé dans le foot et c'est
après, le truc qu'on a dedans. Après, pour moi, il y a deux écoles parce que moi, c'est tout l'inverse. Enfin, c'est pas tout l'inverse, mais je veux dire, moi, ça n'a pas changé. Que les Qataris arrivent, qu'il y ait des petits soucis. Oui, ça m'a fait chier par rapport au maillot Echter, etc. Parce que voilà, les couleurs, c'est les couleurs. Mais moi, j'ai toujours mon amour pour le PSG. Alors après, j'achète peut-être moins de maillots, je vais peut-être moins au parc parce que justement, je ne peux plus parce que c'est devenu trop cher et compliqué. Mais mon amour pour le PSG reste le même. L'histoire reste la même. Je ne l'oublie pas et qu'on change de Sadou ou pas. J'aurai toujours cet amour pour le PSG. Je n'oublierai pas l'histoire du Parc des Princes et de tout ce qu'il y a eu avant. Voilà, après maintenant, c'est de toute façon, il y a vraiment deux idéologies qui s'affrontent. Il y a votre team et notre team, mais ouais, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous avez raison et nous tort. Hein. Ah non, c'est une possibilité différente.
Juste pour répondre à un com, d'ailleurs, sur les coms, c'est aussi assez partagé. Un com qui demandait où j'étais quand j'étais abonné, j'étais en Auteuil aux ATKS, aux Authentiques Juniors.
Et ouais. Bah écoutez, les gars, il y en a un qui va avoir sa batterie qui va terminer. Il y en a un, regardez comment il tient ses hanches parce que ça fait 1h20 qu'il est debout pour vous. Il n'arrive même plus à tenir droit. Donc on va se quitter sur un record. Non, je sais pas si c'est un record, mais 1h20 quand même, c'était assez long comme live. C'était censé finir vers 50 minutes, mais après il a commencé à parler du stade. Draya,
ça y est, je pense qu'il a eu le droit de réponse, moi avec.
Ça y est, maintenant il va pas dire qu'on ne laisse pas parler. Bah écoutez, sur ce, on vous dit à bientôt et on essaiera de faire un live assez rapidement. Et puis voilà. Bienvenue, bonne soirée à vous.
Merci.
Ciao.
Ciao, à bientôt.
Ciao.